Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à titre posthume en 1964 et établi par Claude Lefort. Le visible et le invisible, suivi de notes de travail, rassemble les fragments du dernier grand projet philosophique de Maurice Merleau-Ponty, mort en 1961. Ce ne sont ni un traité achevé, ni une simple compilation documentaire, les chapitres rédigés et les notes permettent de suivre une pensée en train de chercher une nouvelle. Onologie. Après avoir renouvelé la phénoménologie par une analyse du corps et de la perception. Merleau-Ponty met ici en question les oppositions qui organisent couramment la philosophie moderne sujet et objet, intériorité et extériorité, esprit et nature, voyant et chose vue. Le livre examine comment notre accès au monde est déjà une participation au sensible, plutôt qu'une confrontation entre une conscience séparée et des objets inertes. Sa forme inachevée demande une lecture attentive, mais elle révèle avec une rare netteté les problèmes, les déplacements et les exigences de la philosophie tardive de son auteur. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le visible ne se réduit pas à un objet placé devant un sujet. Le titre annonce une critique décisive de la représentation ordinaire de la perception. Dans ce modèle, un sujet intérieur recevrait ou construirait des images provenant d'un monde extérieur. Merleau-Ponty refuse cette distribution simple des rôles. Voir ne signifie pas se tenir devant une chose comme un observateur désincarné, le voyant, appartient lui aussi au monde visible. Son corps est à la fois ce par quoi il perçoit et une réalité perceptible parmi les autres. Cette double condition empêche de faire du sensible un simple matériau passif livré à une conscience souveraine. Le visible possède une profondeur, des horizons et des absences qui ne sont pas des défauts de la perception. Une face cachée, le contexte spatial ou le passé déposé dans une chose participe à ce qui est effectivement donné. Ainsi, le monde ne se présente jamais comme une somme de données entièrement disponible. Cette analyse prolonge les recherches antérieures sur la perception. Mais en modifie la portée, il ne s'agit plus seulement de décrire l'expérience vécue, il faut comprendre quel type d'être rend possible cette parenté entre le corps et les choses. La perception devient donc le point de départ d'une interrogation ontologique, et non un problème psychologique secondaire. Deuxièmement, la chair désigne le tissu commun du corps, du monde et de la perception. La notion de chair constitue le geste théorique le plus singulier du livre. Elle ne désigne ni la matière biologique du corps, ni une substance spirituelle cachée. Elle sert à penser un élément plus fondamental, un tissu de visibilité et de sensibilité dans lequel le corps propre et les choses se répondent sans se confondre. Quand une main touche une autre main, elle peut être simultanément touchante et touchée. Cette réversibilité ne produit pas une identité parfaite, car les deux positions ne coïncident jamais totalement, mais elle manifeste que sentir implique une appartenance du sensible à lui-même. Merleau-Ponty cherche par là une voie distincte du matérialisme réducteur comme de l'idéalisme. Le monde n'est pas une projection de la conscience et le corps n'est pas un mécanisme étranger à toute signification. La chair permet de décrire leur entrelacement sans abolir leurs différences. Elle éclaire aussi la possibilité de reconnaître autrui, un autre corps n'est pas seulement une forme observée, mais une présence expressive issue du même monde sensible. Le concept demeure volontairement exploratoire dans les notes, ce qui explique sa densité et ses ambiguïtés. Sa fécondité tient précisément à son refus de ramener l'expérience à une causalité physique ou à une activité mentale isolée. Troisièmement, l'invisible est la dimension de profondeur qui habite toute apparition, l'invisible ne désigne pas, dans cet ouvrage, un arrière-monde opposé au sensible, ni un domaine mystique séparé de l'expérience. Il nomme ce qui travaille au sein même du visible, sans pouvoir être offert comme une chose présente. Chaque perception comporte des aspects non vus, des relations latentes, une profondeur temporelle et une signification qui excède ce qui est immédiatement donné. Un objet aperçu de face renvoie à ses autres faces possibles. Un paysage inclut des distances, des chemins et des perspectives qui organisent la vision sans être tous présents sous le regard. L'invisible est donc la condition interne de la visibilité, non son contraire. Cette thèse permet à Merleau-Ponty de contester l'idée selon laquelle connaître exigerait une possession intégrale de son objet. Le sens surgit dans un champ, à travers des écarts et des renvois, plutôt que dans une transparence absolue. Elle permet aussi de traiter le langage, l'histoire et l'expression artistique comme des modes de manifestation où ce qui n'est pas directement montré acquiert une présence indirecte. La peinture occupe ici une valeur exemplaire, elle ne copie pas un spectacle déjà constitué, elle rend perceptible la profondeur et la genèse du visible. L'invisible devient ainsi une catégorie précise pour penser le non-donné qui structure néanmoins toute expérience donnée. Quatrièmement, la réversibilité remplace la séparation rigide entre conscience et nature. La réversibilité est le nom donné au rapport circulaire entre celui qui perçoit et ce qui est perçu. Le regard porte sur le monde, mais il appartient à un corps qui peut à son tour être vu. La parole vise un sens, mais elle est aussi un événement audible et public. Le toucher atteint une surface, mais il révèle simultanément la sensibilité de celui qui touche. Merleau-Ponty ne prétend pas que ces pôles deviennent interchangeables sans reste. Il insiste au contraire sur un écart, le corps ne se saisit jamais entièrement comme objet au moment même où il sent, et autrui ne se confond jamais avec mon expérience. Toutefois, cet écart ne rétablit pas deux substances closes, il rend possible une relation de croisement, parfois désignée par le terme chiasme. Ce schème répond aux difficultés classiques du rapport entre esprit et corps. Plutôt que de demander comment une pensée enfermée dans sa sphère peut atteindre une réalité extérieure, il montre que la séparation radicale est une abstraction tardive. Nous sommes engagés dans un monde commun avant toute réflexion. Cette orientation donne une portée philosophique à des faits ordinaires comme regarder, toucher, parler ou être regardé. Elle fournit aussi les bases d'une compréhension non solipsiste de la coexistence avec autrui. En dernier lieu, les notes de travail montrent une ontologie ouverte plutôt qu'un système achevé. Les notes de travail ne doivent pas être lues comme des annexes accessoires. Elles donnent accès au laboratoire conceptuel de Merleau-Ponty et rendent visible la direction de son projet inachevé. On y rencontre des formulations brèves, des reprises, des objections et des pistes qui ne sont pas toujours stabilisées. Cette forme impose une prudence interprétative, il serait abusif de traiter chaque notation comme une doctrine définitive. Mais elle éclaire aussi le mouvement de la recherche. Merleau-Ponty tente de dépasser le vocabulaire hérité de la conscience constituante, de l'objet et de la subjectivité. Parce qu'il juge ces catégories insuffisantes pour penser l'enracinement sensible de la pensée. Les notes relient cette ambition à des questions de langage, de nature, de temporalité et d'expression. Elles indiquent que la philosophie ne doit pas ajouter un discours abstrait au monde, mais retrouver le plan préobjectif où se forment nos distinctions. Claude Lefort a organisé ses matériaux posthumes avec les textes rédigés, ce qui rend possible leur lecture tout en rappelant leur statut fragmentaire. La force du volume vient de cette tension, il présente des analyses très élaborées, mais laisse également apparaître les difficultés d'une ontologie qui cherche à penser le monde sans le soumettre à un principe unique. En conclusion, le visible et le invisible suivi de notes de travail s'adressent en priorité aux lecteurs déjà familiers des questions de phénoménologie, de philosophie continentale, d'esthétique ou de théorie du corps. Une première approche de Merleau-Ponty, notamment de la phénoménologie de la perception, facilite la lecture. Mais n'est-ce pas indispensable si l'on accepte de progresser lentement et de revenir aux notions centrales? Le bénéfice intellectuel du livre tient moins à l'acquisition d'une doctrine, immédiatement résumable quoi la transformation des problèmes que l'on pose au lieu d'opposer mécaniquement. Sujet et monde, corps et pensée, présence et absence, il apprend à décrire leurs relations concrètes et leurs écarts constitutifs. Il intéressera aussi les chercheurs en art, en études visuelles, en sciences humaines et en théorie du langage, car il attribue à l'expression et à la peinture une capacité propre à faire apparaître la profondeur du sensible. Par rapport au traité phénoménologique systématique, l'ouvrage se distingue par son caractère posthume et inachevé. Cette incomplétude est une difficulté réelle, les transitions manquent parfois et certains concepts restent en chantier. Mais elle est aussi sa singularité. Le lecteur observe une philosophie au moment où elle cherche à inventer ses propres instruments, notamment la chair, la réversibilité et le chiasme. Le volume ne propose donc pas un manuel clos, il offre une expérience exigeante de pensée, dont la valeur réside dans la précision des questions ouvertes. Si vous souhaitez soutenir Maurice Merleau-Ponty, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.